Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonsoir et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. José Nawej, il est journaliste et il est éditeur du journal Forum des As paraissant en Kinshasa. Bonjour M. José Nawej.
Bonjour cher confrère Guy Maté.
Maître Nene Bintou Iraki Moudekereza, elle est vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile, coordinatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo, afin point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Bonjour Madame Nene Bintou Iraki Moudekereza.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahman Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Bonjour Monsieur Abdourahman Dia.
Bonjour Guy.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. José Nawej. Il est journaliste, il est éditeur du journal Le Forum des As paraissant à Kinshasa. Maître Nene Bintou Iraki Moudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique et élections et bonne gouvernance de la société civile, coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo, afin point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahman Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Au menu de cette émission, la criminalité urbaine en rapport avec le phénomène kidnapping, l'évaluation de l'action de la force de l'EAC au Nord Kivu et la rencontre entre la CENI et l'opposition sur le processus électoral en cours en RDC. Mais nous allons commencer par un commentaire sur la visite à Kinshasa ce jeudi du président sud-africain. En effet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de travailler pour faire taire les armes dans la partie orientale de la RDC. Il l'a dit ce jeudi 6 juillet au cours de la conférence de presse commune animée avec le président Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation à Kinshasa. Nous partageons les mêmes soucis avec les populations congolaises en ce qui concerne l'agression dans la partie est du pays. Nous allons travailler pour faire taire les armes. Nous continuerons à soutenir la RDC dans les secteurs sécuritaires et dans les secteurs de développement. Nous allons renforcer notre partenariat et appliquer les résolutions sur la question sécuritaire proposées par nos experts, a-t-il expliqué. Le président sud-africain promet aussi de travailler avec les autorités congolaises pour que les populations bénéficient des minerais exploités dans leur pays. Les ministres des Mines vont créer les cadres de coopération dans les secteurs miniers. La RDC a les minerais stratégiques. Il y a une commission des mines qui va nous mettre ensemble dans les cadres de la SADC pour gérer nos propres minerais. Nous devons bénéficier de nos propres ressources naturelles pour apporter des bénéfices au pays. Il estime que la coopération dans les secteurs de l'agriculture, du transport, de l'énergie peut permettre aux populations des deux pays de travailler ensemble pour leur développement. José Nawej, Cyril Ramaphosa promet de travailler pour faire taire les armes dans la partie orientale de la RDC. Votre réaction?
Écoutez, chers confrères, Et disons que j'ai presque envie de dire que c'est très sympathique de la part du président sud-africain de dire qu'il entend travailler pour faire taire les armes, mais le problème c'est que Kinshasa attend des actes. Les Congolais attendent des actes, la compassion, la commisération verbale. On en a tellement enregistré depuis que cette guerre a commencé. La guerre n'a pas commencé hier, elle a commencé avant-hier, c'est-à-dire il y a un quart de siècle. Mais qu'est-ce que de nos partenaires, on entend la même ritournelle. C'est le même discours, c'est le discours de compassion, c'est le discours de solidarité. Mais c'est du verbe, j'ai presque envie de dire, c'est de la littérature. Mais c'est que attend les Congolais des Masisi, coincés, déracinés, qui ne savent plus aller au champ, par Masisi j'entends toute cette partie du territoire qui est sous le contrôle de rebelles et de leurs mentors rwandais, disons les choses telles qu'elles sont, c'est un secret de Polichinelle, c'est le Rwanda qui est là-bas, eh bien, les populations attendent des actes. On a attendu, c'est très bien de dire ce que le président a dit, c'est aussi bien d'entendre chaque jour que la communauté internationale est pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Tout ça, nous l'entendons depuis 25 ans. Mais les lignes ne bougent pas. La situation ne change pas. Elle ne change pas pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas aller au fond des choses. Le fond du problème, c'est qu'il y a un État qu'on peut nommer le Rwanda, ce n'est pas un secret, et secondairement, et subsidiairement, l'Ouganda, le Rwanda principalement, pour ce qui concerne le débat actuel, qui est sur notre territoire, non pas à la demande du gouvernement légitime congolais, mais qui est sur notre territoire de son propre chef. Ça s'appelle violation en droit international, violation du droit international. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut d'abord commencer par là, et le reste viendra après. Mais le discours qu'on entend depuis toujours, c'est un discours, en termes médicaux, on parlerait d'un discours anesthésiant. On nous anesthésie, mais la vraie solution ne vient pas.
Merci, Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza. Le président sud-africain promet aussi de travailler avec les autorités congolaises pour que les populations bénéficient des minerais exploités dans leur pays. Madame Néné, on voit qu'au-delà des questions sécuritaires, les questions économiques ont aussi été évoquées par le président Ramaphosa. Cela n'accrédite-t-il pas la thèse selon laquelle la contrepartie de toutes ces assistances militaires dont nous bénéficions, ce sont des visées économiques?
Oui, je salue les réflexions pertinentes avancées par mon prédécesseur. Je suis totalement d'accord avec lui qu'on n'est plus là pour écouter les bonnes intentions. On en a déjà subi plusieurs. Mais il faut dire quand même qu'on a beaucoup de choses à copier de l'Afrique du Sud, parce que cette fois-ci, c'est un pays africain qui a autant de minéraux comme la RDC, mais vous voyez comment les minéraux de l'Afrique du Sud l'ont développé. Donc moi, je suis déjà arrivé à Pretoria, Johannesburg, je vois comment, quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous n'avez pas envié l'Europe. Et donc, en principe, ayant presque les mêmes ressources naturelles, et même plus, en termes de parcs et autres, on a été presque bénis de la même manière que l'Afrique du Sud, mais chez nous, il n'y a rien sur le plan infrastructure, sur le plan sécuritaire, sur le plan emploi, sur le plan modernisation. Donc nous avons énormément à copier de ces pays-là, mais pour autant dire que c'est l'Afrique du Sud qui va nous aider à régler tous nos problèmes, je ne pense pas. L'Afrique du Sud est déjà intervenu en RDC à travers... En 2013, on sait que le SIDAF était aux côtés de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO à l'époque qui avait mis en déroute le M23 en 2013. Il y a même des Sud-Africains qui ont payé de leur sang pendant ces affrontements-là. Donc je ne doute pas que ce soit un pays ami. Mais au-delà de cette amitié-là, en droit international, on dit qu'il n'y a pas d'amitié, ce sont les intérêts qui comptent. Et donc, si les relations avec l'Afrique du Sud peuvent, comme un pays africain, si elles peuvent nous aider à améliorer notre secteur minier, souvent je vois les gouvernements participer en Afrique du Sud océan d'Indaba Mining, il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas, mais on ne voit pas des impacts. Donc l'Afrique du Sud, c'est une puissance en Afrique et elle veut se confirmer davantage. Il ne faudrait pas qu'elle se confirme davantage sur notre dos. Donc il faudrait qu'on ne puisse pas négocier à genoux dans ces différents contrats qui seront signés, que ces contrats vraiment aient un impact sur la vie économique de nos concitoyens, sur le développement en général. Et sur le plan sécuritaire, on ne sait plus maintenant à quel sens se vouer parce que on a annoncé que la SADC allait venir avec, en tête c'était avant l'Angola, mais on ne sait pas, avec le dernier sommet de Luanda, on a senti que la rigueur qu'il y avait, la ténacité qu'il y avait dans l'ancienne déclaration de Luanda de septembre a diminué un peu pour un peu pousser la RDC à aller négocier avec le Rwanda qui n'a jamais accepté son implication sur le sol congolais. Et donc, de plus en plus, il faudrait que notre pays aujourd'hui, c'est un pays solution, c'est comme une belle fille qui est enviée par tout le monde. Et donc, il faudrait pas que notre pays se vende à moins cher. Il faudrait qu'elle profite de toutes ces opportunités-là, surtout au niveau de l'Afrique, pour voir comment booster le développement. Et je pense que c'est possible avec un minimum de volonté politique, avec un intérêt pour la cause commune, pour l'intérêt général. Je pense que ça peut être possible. L'Afrique du Sud aussi a aidé souvent notre pays dans les domaines électoraux. Donc beaucoup de bulletins de vote, certains kits sensibles au processus électoral ont souvent été commandés en Afrique du Sud. Je crois une flotte aérienne aussi à un moment donné avait facilité au déploiement des kits. Donc on a quand même un passé qui n'est pas sombre avec l'Afrique du Sud.
Et merci.
Qui, je crois qu'il faudrait qu'on soit capable de maintenir pour l'intérêt des Congolais.
Merci. Abdourahmane Dia, Cyril Ramaphosa dit nous allons renforcer notre partenariat et appliquer les résolutions sous la question sécuritaire proposée par nos experts. Et il est dit que la question sécuritaire de la RDC dépasse les frontières africaines, que les tireurs des ficelles sont ailleurs. Abdourahmane Dia, quels pourraient être les atouts que pourrait détenir l'Afrique du Sud pour apporter la solution à cette épineuse question de l'Est et de la RDC, là où beaucoup d'États n'ont pas pu réussir?
Merci Guy, et je salue également les autres participants au débat. Je pense que pour la RDC, l'Afrique du Sud est un bon partenaire ou un bon allié à avoir. Le pays étant membre des BRICS, ce pays africain, étant membre également du G20, donc toute cette puissance et cette influence auprès de groupes importants comme ces deux-là, les BRICS et le G20, je pense que l'Afrique du Sud peut être un peu pour plaider le cas de la RDC, de la manière dont Kinshasa voit les crises sécuritaires. Je pense donc que c'est important pour Kinshasa d'avoir l'Afrique du Sud à ses côtés sur la question sécuritaire, étant donné que Kinshasa voit un peu Kigali comme étant la main qui est derrière tout ce qui se passe dans l'est de la RDC. Donc je pense qu'il y a un combat non seulement diplomatique et politique à jouer sur la scène internationale, et avoir l'Afrique du Sud comme partenaire dans ce sens est à mon avis très important. Donc c'est un peu dans ce sens que je vois la visite de Cyril Ramaphosa à Kinshasa.
Oui, et qu'est-ce que vous dites de cette thèse selon laquelle, au-delà de tous ces partenariats militaires, de toutes ces assistances militaires, il y a des visées économiques, et les propos du président Ramaphosa semblent accréditer, n'est-ce pas, cette thèse?
Bon, c'est évident que souvent, comme on le dit, derrière toutes les guerres, il y a d'autres visées, notamment économiques. Maintenant, les propos de Ramaphosa ne signifient pas forcément que l'Afrique du Sud a des visées économiques et des intérêts dans ce conflit, à mon avis. Et comme ils l'ont dit, il y a des minéraux stratégiques qui sont en RDC, et il est important que ces minéraux stratégiques dont ont besoin les puissances occidentales, notamment dans la fabrication des batteries électriques qui sont un peu l'avenir de l'économie mondiale, il est important que la RDC puisse protéger ces ressources-là. Et ça me permet un peu de revenir à ce que je disais. Donc avoir un allié comme la, l'Afrique du Sud, à mon avis, est important. Maintenant, il revient au pays de protéger ses intérêts également, mais on ne peut pas être en solo aujourd'hui dans le monde actuel. Malheureusement, on est dans un monde globalisé. Malheureusement ou heureusement, il faut savoir tirer son épingle du jeu et défendre ses intérêts. Moi, je pense que c'est plutôt ça.
Merci. On prend une petite pause avec Bané d'Olivier Ngoma et on revient tout de suite après. C'était Bané avec Olivier Ngoma, cet artiste musicien gabonais qui nous a quitté il y a de cela quelques années. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Procès des présumés auteurs des enlèvements à Kinshasa. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association des malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Le tribunal les oblige également à payer des amendes au titre des dommages et intérêts afin de réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. Pour ce qui est de l'infraction des meurtres, par exemple, la justice condamne les criminels à payer 20 000 dollars américains. Signalons que la peine légère dans cette condamnation est celle des 2 ans de prison avec sursis prononcé contre la demoiselle Redda. Pour rappel, 27 présumés criminels, dont 4 policiers et 6 filles, ont été présentés le lundi 3 juillet à l'esplanade du bâtiment de la territoriale à Kinshasa par la police. Ces présumés criminels, constitués en plusieurs bandes, étaient accusés, entre autres, d'être auteurs du phénomène kidnapping qui prend de l'ampleur ces jours dans la capitale. Selon la police, ces hommes volent, violent, tuent et extorquent les biens de leurs victimes. José Naouège, vous êtes journaliste et éditeur du journal Forum des As, paraissant à Kinshasa. Vous avez choisi de nous parler de cette criminalité. On rappelle que dans l'édition de votre journal Forum des As de ce vendredi 7 juillet, vous titrez à la une « Urgence, dossier kidnapping, les malfrats condamnés à la peine de mort ». José Naouège, on vous écoute.
Oui, ils ont été condamnés à la peine capitale, à la peine de mort, très tard, minuit. Je crois que le plus important dans cette affaire, c'est l'adéquation entre la réponse pénale et l'application de la peine. Il y a 2 dimensions. La réponse pénale existe, mais est-ce que cette réponse pénale, on l'applique? en termes simples, c'est que très souvent on a constaté et que dans la criminalité urbaine à Kinshasa, on arrête les malfrats, ils sont jugés, ils sont condamnés, ils sont embastillés, et quelques jours après, sans qu'ils n'aient purgé leur peine, on les revoit encore sur la rue, ce sont les mêmes. Et tout répare. La grande question, c'est celle-là. Et c'est que une chose est de donner une réponse pénale, mais une autre est de la faire appliquer, justement. Mais si on ne la fait pas appliquer, ça veut dire que la peine n'a plus sa fonction, non seulement éducative, mais aussi préventive. Donc ça n'existe plus, ça. Donc c'est très important. Je crois que même le procureur général, près de la Cour de cassation, a insisté là-dessus. Le patron de la police de Kinshasa a insisté là-dessus. Donc il faudra vraiment une synergie entre la police, la justice, pour que finalement, ce que l'on arrête et que l'on juge, comme ça a été le cas, puissent purger leur peine. Si c'est la peine capitale, elle existe, mais en tout cas, si on doit la commuer en perpétuité, mais qu'ils restent là où ils doivent rester. C'est ma première réaction. Mais la deuxième, il y aura une troisième. La deuxième, c'est que, en raison de ce que je considère, moi, comme le jacobinisme quinois, on a l'impression que le pays s'arrête à Kinshasa. En fait, le phénomène kidnapping, enlèvement, n'a pas véritablement commencé à Kinshasa. Ça fait que 2 mois, quand Lubumbashi, deuxième ville du pays, il y a ce phénomène déjà, où on enlève, on tue, on viole, comme vous l'avez bien expliqué dans votre chapeau,
même à Goma
dans votre introduction.
Même à Goma aussi.
Oui, même à Goma.
Dans voilà, beaucoup de villes en RDC.
Maintenant, voilà. Le problème, c'est que nous voyons tout à partir de Kinshasa et nous avons l'impression, et c'est contre même la cohésion nationale dans ces pays-là, c'est que le jacobinisme quinois est tel qu'un mal n'est mal que s'il se produit à Kinshasa. Mais les Congolais de Goma, vous venez de citer Goma, les Congolais de Lubumbashi, mais quid de leur situation? Autant la police, autant les services de l'État pour sécuriser ces Congolais-là. Est-ce que nos médias se mobilisent autant pour ce qui se passe à l'intérieur du pays? Et enfin, je crois que c'est peut-être ça le plus important, la criminalité urbaine, pour dangereuse qu'elle soit, n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas tout un pays qui, pendant plusieurs années, a négligé la prise en charge de son peuple, de sa jeunesse. C'est ça le fond du problème. C'est que quand dans un pays, le travail et l'exception et le chômage, même pas le chômage en termes techniques, on ne peut même pas parler de chômage, on parlera de l'oisiveté. L'oisiveté contrainte, pas voulue par les gens, contrainte est la règle, eh bien, cette société-là est totalement déréglée. Donc cette criminalité devient, malheureusement, comme un moyen de vivre pour ces gens-là. Et c'est très dangereux. Donc je suis en train de dire que la réponse ne réside pas dans le tout sécuritaire. Il faut une réponse holistique, c'est-à-dire une réponse de reprise en main du pays, en termes de gouvernance. Merci.
Merci, Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza, vice-présidente de la Société Civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la Société Civile, les coordonnatrices de l'ASBEL collectif Simama Congo et enfin point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Il a été dit que certains magistrats seraient à la base de ce type de phénomène, dans ce sens que plusieurs fois, ces magistrats accordent la liberté aux personnes notoirement reconnues comme étant dangereuses. Vous êtes praticienne du droit. Comment vous comprenez cela, Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza?
Oui, merci beaucoup, Guy. En tant que praticienne du droit, comme vous le dites, je dois du respect aux magistrats. Mais il faut quand même signaler qu'à travers ce procès, on a quand même suivi des révélations troublantes qui méritent l'attention de tout le monde et de l'organe de la loi, donc l'organe poursuivant, le ministère public et le conseil supérieur de la magistrature. Donc souvent dans des procès comme ça, il y a des aveux, des jactances, il y a quand quelqu'un est déjà pris la main dans les sacs, il y en a qui en profitent pour salir tout le monde. Mais bon, je ne sais pas confirmer la véracité de ses propos, mais ça nécessite quand même qu'on fouille pour voir ce qu'il en est. J'étais aussi sidéré de voir que parmi les présumés kidnappés, il y avait aussi la police. Pourtant, dans d'autres pays, c'est, ou ailleurs, ou même dans, selon la législation congolaise, la police est là pour protéger les personnes et leurs biens. Et donc, quand on doit compter les policiers aussi parmi les kidnappés, ça montre qu'on doit revoir les méthodes de recrutement de nos policiers. Et souvent, ce sont la plupart qui ont échoué peut-être dans leur vie, qu'on ramasse par-ci, par-là pour les mettre à la police. Donc, il faudrait que de plus en plus, il y ait des mesures restrictives dans le recrutement de nos forces de sécurité. Ça pourrait peut-être nous aider à éviter ce genre de scandale à l'avenir. Mais aussi, comme le disait mon prédécesseur, le procès a un caractère pédagogique. Et il faudrait qu'on condamne ceux qui sont condamnés. Vous savez que même si on les condamne, c'est encore le premier degré, ils peuvent interjeter appel. Peut-être il y en a qui seront acquittés, on ne sait pas. Et peut-être qu'ils iront encore en cassation, on ne sait pas aussi. Donc, le procès n'est pas définitif. Et ce phénomène devient de plus en plus inquiétant, comme l'a dit mon prédécesseur. Ce n'est pas seulement Kinshasa qui est concerné. Vous avez bien parlé de Goma, mais moi, je vis à Bukavu. Je connais de plus en plus les phénomènes prennent de l'ampleur dans la ville de Bukavu. C'est presque tous les jours qu'on reçoit des messages avec des photos des enfants, des adultes, même des personnes de troisième âge pour dire voilà, il a quitté la maison, il est porté disparu. On commence à envoyer des messages aux familles pour dire que voilà, vous devez envoyer telle somme d'argent à tel numéro. On a même enregistré récemment un autre cas à Chabunda, dans le site Kivu et dans le territoire d'Uvira. Donc, le site Kivu n'est pas aussi épargné, si on, comme on peut le dire. Et ce qui nous étonne souvent, nous, comme praticiens du droit, lorsque vous prenez le numéro de ces présumés kidnappeurs, là, vous demandez au procureur de requérir, là, soit c'est souvent RTL, c'est souvent aussi... parfois, RTL ou Vodafone, on envoie des messages comme ça pour envoyer l'argent. On s'adresse au procureur général ou à l'auditeur militaire supérieur pour demander que des investigations soient faites pour découvrir les propriétaires de ces numéros-là. Mais souvent, ça bloque à ce niveau-là. Donc, peut-être encore au moins du côté des militaires, on parvient à voir certaines pistes. Mais du côté des civils, parquet civil, souvent il y a des blocages. On vous dit, voilà, il faut attendre que Kinshasa donne l'autorisation de divulguer l'identité de la personne qui reçoit de l'argent. Parce que toutes ces transactions, c'est pas soit par M-Pesa, soit par Airtel Money, soit par Orange Money. Et quand même, si on était sérieux avec les maisons de communication, c'est des pistes qui auraient pu être bien exploitées. On pourrait à mettre fin à ce phénomène-là. Donc, il y a lieu qu'on interpelle aussi les maisons de communication pour que, quand il y a des cas comme ça, qu'elles fournissent les éléments les plus vite possibles pour qu'on indique ces phénomènes-là.
Merci, Abdourahmane Dia, journaliste à La Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. La justice vient de se prononcer. Et au-delà de la réponse judiciaire, quelle doit être la réponse politique ou quelles doivent être les réponses politiques à tous ces phénomènes qui insécurisent la population congolaise, les phénomènes Kuluna, les phénomènes kidnapping, pourquoi pas les phénomènes Mobondo? Quelles devraient être les réponses politiques à tous ces phénomènes, Abdourahmane Dia? Vous avez suivi José Nawej qui a dit que la criminalité n'est qu'une partie visible de l'iceberg.
Je pense que José Nawez a parfaitement raison. Il faut une approche globale face à cette situation. Vous parlez de solutions politiques. Je pense, ce qui m'a un peu marqué, c'est quand j'ai vu que ces auteurs de ces enlèvements, qu'on peut les appeler comme ça, puisqu'ils ont été condamnés, le ministre être présenté au ministre de l'Intérieur, je pense que c'est une stratégie de com importante parce que l'opinion publique est dans une psychose où il faut d'abord la rassurer. Maintenant, le reste, c'est d'aller au-delà aussi, d'essayer de comprendre ce phénomène qui est un peu devenu, si on peut dire, une activité économique. En Afrique de l'Ouest, où je suis originaire, on voit ces enlèvements contre rançon, surtout au Nigeria, dans la partie ouest, où des bandes organisées en font une activité lucrative. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, ce qu'on voit généralement, ce sont des crimes rituels ou des trafics d'organes, et ça crée une psychose extraordinaire auprès des populations. Donc, les autorités dans ces pays doivent prendre des mesures pour rassurer les populations. L'aspect sécuritaire est important. Maintenant, l'autre aspect dont faisait référence José, je pense, c'est également promouvoir le développement économique. C'est vrai que la pauvreté ne justifie pas du tout ces crimes, et je pense qu'il faut sévir, il faut réprimer, et il faut donner l'exemple, avec notamment ces condamnations à mort, qui sont très importantes. Je pense que ça peut servir d'exemple, mais il faut aller au-delà, il faut une répartition plus équitable des ressources et des revenus pour qu'il y ait moins de désarroi, moins de chômage auprès des jeunes. Il est clair que même avec ça, la criminalité va continuer, mais je pense qu'il faut aller au-delà juste des peines sévères. Il faut essayer de comprendre le phénomène. Et cela dit, les populations ont besoin d'être rassurées, notamment avec des patrouilles. Il faut que les autorités vraiment fassent le maximum dans tous nos pays, en fait, pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leur récupération. Ces victimes, ce sont peut-être des enfants qui demain pourraient être des ingénieurs, de grands hommes politiques, malheureusement, sont des victimes, peuvent mourir ou en tout cas être traumatisés à jamais. Donc c'est un phénomène très important, et je salue un peu le rôle de la presse congolaise dans cette affaire, parce que d'habitude dans nos pays, on met souvent à la une les disputes politiques, les questions électorales, et je suivais un peu la presse congolaise. Je vois que la presse congolaise a mis l'accent sur ces affaires parce que c'est très important.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, Félix Wazekwa va se produire les 12 août prochains au stade des Martyrs. Nous allons écouter un de ses classiques intitulé Mi Corazon. On revient après.
Longi na yo motambu, e kangi ma na misu, se na misu. Semba la mokoto monana, e se komi ezali, deja e komi habitude nanga. Ungi akanisa ki baza, kubete la ye mavoko, zoka baza konuka kubuma ye. Yango kolanda te oyu, ozo yo kayo, e sa boba kabola linzaka na mosabi.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la visite du président sud-africain à Kinshasa. Nous avons également parlé du phénomène criminalité urbaine avec les kidnappings qui prend de l'ampleur dans beaucoup de villes en RDC. Participe à cette émission, José Naoué, je suis journaliste et éditeur du journal Forum des As paraissant à Kinshasa. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile, coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo, a fait un point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahman Dia, journaliste à la voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, une mission d'évaluation de l'action de la force de l'EAC séjourne à Goma depuis lundi 3 juillet. Ce, conformément à l'une des recommandations du sommet des chefs d'État d'Afrique et de l'Est du 31 mai 2023 qui s'est tenu à Bujumbura. Selon RFI, cette mission est composée d'officiers de chaque État engagé sur le terrain, le Kenya, le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Burundi. Il y a aussi des officiers congolais sur place, ajoute une source proche du dossier. L'équipe d'évaluation a commencé ses travaux mardi et doit rester sur place jusqu'à ce samedi 8 juillet. Au programme, des sessions de travail en plénière, mais aussi des visites sur le terrain. Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza, on peut savoir pourquoi vous avez souhaité nous parler de cette mission d'évaluation de l'action de l'EAC au Nord Kivu?
Oui, merci beaucoup. C'est parce que ça intéresse tout Congolais, toutes Congolaises et l'UDC. Ça fait plus de 25 ans que la partie est de la RDC connaît des atrocités énormes. Oublié même sur le plan international parce qu'on dénombre plus de 13 millions de morts. C'est plus que les génocides du Rwanda, c'est plus que même d'autres génocides qu'on a déjà énumérés à travers le monde, mais on sent que non seulement la justice internationale fait fi de ce qui se passe en RDC, mais aussi de l'autre côté des pays voisins qui continuent à nier leur implication. Et malgré la bonne foi de la RDC d'adhérer à des structures comme la SADC, parce que étant donné que la RDC est au centre du pays, de l'Afrique, toutes les organisations régionales de la RDC en est membre. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est dans des organisations qui veulent chacune déployer des forces. On parle de la SADC, on parle de l'EAC, peut-être demain, on va encore parler de, c'est pas moi, l'Union africaine, le CIRG et autres. Donc, pour nous, cette question nous intéresse parce que de plus en plus, nous sentons un peu le relâchement. On a comme l'impression que la RDC est abandonnée à son triste sort. Quand nous étions à Nairobi, lors du troisième round de Nairobi, nous étions presque sûrs que ça allait marcher parce qu'on nous a parlé de comment la force régionale sera déployée, quelle sera sa mission. On nous a demandé de faire des recommandations en tant que société civile. Et justement, connaissant, nous servant bien du passé, nous avons formulé nos inquiétudes comme quoi déjà la MONUSCO venait de faire plus de 20 ans. La paix n'est pas retrouvée. Il y a le M23 qui était déjà vaincu en 2013, mais subitement, les terroristes ont repris le contrôle de Rutshuru. Ça fait une année que Bunagana est occupé. Et ce qui nous tique beaucoup plus, c'est de voir que de plus en plus le Rwanda s'absente à ce genre de réunions. La première réunion avec le chef d'État de la sous-région, donc le commandement militaire, le Rwanda n'était pas allé à Goma au motif que ça s'était mal passé à Bujumbura, parce que nous, de la société civile, nous sommes partis là-bas. Nous avions même manifesté devant les palais présidentiels du Burundi pour montrer notre ras-le-bol. La force régionale a démontré ses limites. Même le chef de l'État l'avait si bien dit. Parce que depuis qu'elle est venue, le M23 s'est renforcé davantage. Aujourd'hui, nous avons Rutshuru qui n'est pas sous contrôle de Kinshasa. Donc, quand les terroristes entrent et prennent en otage un village, ils nomment leurs administrateurs, ils contrôlent les secteurs commercial et tout. Et donc, il n'y a pas l'administration civile sous le contrôle de Kinshasa dans ces coins-là de la République. Et cela a fait que Rutshuru ne participe pas au processus électoral à travers l'identification, l'aroma des électeurs. Et même Massis, c'est une partie, une grande partie de Massis. Et donc, pour nous, nous voyons que notre gouvernement devrait avoir une autre vision par rapport à ce genre de choses. Parce que maintenant que le Rwanda, encore, nous avons appris qu'il est absent de Goma, de ces assises-là, alors qui va mettre en application toutes les recommandations. Donc, nous, au niveau de la société civile, à un moment donné, nous avons pensé que peut-être il fallait une solution militaire du côté de la RDC, que ce soit les terroristes du M23 supplétifs du Rwanda, que ce soit les ADF qui sont des Ougandais, tous ne nous rendent pas la tâche facile. Et si jamais des plans militaires en RDC ne seraient pas à même de répliquer militairement contre Kigali, il faudrait alors peut-être envisager la SADC et trouver une solution définitive pour la MONUSCO. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on tourne la page à la force régionale.
Merci.
Et qu'on songe autrement.
Merci. José Nawej, la RDC continue d'espérer que cette force va obtenir un mandat offensif, alors qu'un officier de cette force de l'EAC a estimé récemment dans les médias que la force n'est pas là pour se battre, mais pour plutôt aider à régler pacifiquement la crise. Il pense que c'est plus efficace que si on utilisait l'approche militaire. Comment vous réagissez à ces propos, José Nawej?
Écoutez, chers confrères, je crois que nous devons quitter la lecture désincarnée de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons une lecture désincarnée, y compris nous, Congolais. Et on est journaliste, c'est vrai, mais on est d'abord Congolais. Et c'est parce qu'on a un pays qu'on exerce même le métier de journaliste. J'entends par là, je suis très intéressé par ce que vient de dire ma compatriote, qui vit à l'Est, qui vit dans l'Est, qui vit les réalités au quotidien. Et c'est que c'est cette approche désincarnée qui fait que finalement, nous allons de sommet en sommet, de force en force, j'ai presque envie d'ajouter, sans qu'une lueur d'espoir ne se dessine. Nous sommes dans une logique de rapport de force. Le Rwanda, parce qu'il faut nommer les choses, sinon on ajoute au malheur du monde, disait Albert Camus, a mal nommé les choses. Oui, le Rwanda, en l'occurrence, le Rwanda est dans une logique de rapport de force. Mais à cette logique de rapport de force, nous lui opposons la diplomatie. Il y a un problème. Il y a un vrai problème fondamental à ce niveau-là. Les pays qui nous environnent, je pense ici en particulier au pays de l'EAC. Mais l'EAC a été créé dans quel contexte? C'est dans le contexte parce que nous n'avons pas toujours, nous les Congolais, nous sommes tellement, disons, absorbés par le train-train quotidien que nous n'avons pas toujours le temps de prendre du recul. L'EAC a été créé au pic de notre agression. En d'autres termes, pendant que nous sommes agressés, trois des principaux pays de l'époque, de l'agression originelle, j'ai presque envie de dire, sont les cofondateurs de l'EAC. Donc n'attendez pas que l'EAC se fasse harakiri. Ça me paraît logique que l'officier auquel vous faites allusion, et ce n'est pas la première fois, il a même contredit, il a même pris le contre-pied de la position de notre président de la République, qui pensait que l'EAC venait ici faire le boulot que les Congolais attendaient de l'EAC, à savoir se mettre aux côtés de l'armée congolaise et bouter dehors l'ennemi, comme nous le disons de manière triviale. Mais ce n'est pas ça, justement. L'EAC est dans une autre logique. Mais cette logique n'est pas compatible avec nos intérêts à nous. Notre intérêt à nous, Congolais, hein, c'est ce que Madame vient de dire. Il faut qu'on cesse avec cette, j'allais dire propension, c'est un peu... Non, c'est cette manière de sous-traiter notre souveraineté. Des questions de souveraineté majeure comme celle-là, nous devons apprendre à nous défendre, à défendre nos territoires, parce que c'est nous qui mourons, c'est des Congolais qui meurent. Ce ne sont pas des Ougandais, des Rwandais, des Sud-Soudanais qui ont leurs problèmes par ailleurs. Mais ici, ce sont les Congolais qui meurent, c'est notre territoire qui est violé. Donc, n'attendons pas que de ce sommet-là, comme par miracle, la solution vienne. Et tenez, voilà, on parle des processus, on parle des solutions diplomatiques, ou solutions politiques même. La solution politique veut dire tout simplement négocier avec les agresseurs et leurs exécutants. Je vous rappelle que ce ne sera pas la première fois qu'on les fasse. On n'a fait que ça. Et donc, il faut casser fondamentalement l'élément du chantage. Il y a comme un chantage à l'intégrité territoriale, mais on ne devrait pas avoir des Congolais qui font du chantage contre leur propre pays. Nous avons ce chantage à l'intégrité territoriale. Nous avons ce chantage à l'entretien des FDLR. Mais ces FDLR, bon sang, depuis 1994, ils ont quelle capacité de sissiparité, de reproduction, et ils ne vieillissent pas, ils sont là, voilà, voilà. Et quel est ce jour où vous avez appris, vous et moi, que non, non, voilà, les rebelles rwandais, entretenus par des Congolais, sont entrés dans le Rwanda, ils ont occupé telle colline, ils ont attaqué telle infrastructure, mais le Rwanda est calme, tout se passe chez nous. Et donc, je voudrais, excusez-moi si je suis été long, moi je crois que c'est quand même important. Et nous devons avoir une grille de lecture qui corresponde à nos intérêts. Que les autres Africains aient leur grille de lecture, nous conseillent d'y aller par la voie diplomatique, comme si on ne l'avait jamais fait, nous conseillent d'y aller par la voie politique, comme si on ne l'avait jamais fait. Il y a quelque part, on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je crois que le problème fondamental du Congo, c'est de reprendre en main le secteur régalien que la défense. Nous devrions opposer au Rwanda le rapport de force. Imaginez-vous, nous avons un confrère qui est à la voix de l'Amérique, vous touchez seulement à un cheveu d'un Américain quelque part, ou vous essayez de violer même un centimètre carré du territoire américain. Vous pensez que on va y aller par des négociations? Pourquoi on veut à nous imposer des négociations? C'est parce que précisément, et vous l'avez dit, chers confrères, en liminaire de cette émission, c'est que le conflit dans l'Est, il ne faut pas le voir comme un conflit local, même régional. C'est un conflit qui, en réalité, est sous-tendu par de gros intérêts qui dépassent même les épaules du président Kagame et du président Museveni, qui, dans le coup, ne sont qu'un des maillons de la chaîne. C'est en fait un vrai complot international pour, sinon, somaliser la RDC et du moins l'affaiblir pour continuer à profiter de ses richesses. Quelque part, la faiblesse actuelle du pays est entretenue à des fins de razzia économique. C'est ça le problème. Et le Rwanda, il trouve son compte. Donc, d'un mot, à cette logique de rapport de force, avant de compter sur les voisins, sur les puissances régionales, sur les forces régionales et qui sont présentes, nous devrions d'abord compter sur nous-mêmes, avoir notre propre agenda qui corresponde à nos intérêts. Il n'appartient pas aux autres de définir notre agenda. Processus de Luanda, processus de Nairobi, tout ce que vous voulez, il y a une bonne, c'est très sympathique, il y a une bonne part des agendas que nous ne maîtrisons pas, essayons nous-mêmes de produire notre agenda. Mais pour le produire, je termine par là, il faudra nécessairement, est-ce que c'est un vœu pieux, est-ce qu'on prêche dans le désert, on ne peut pas sur une question comme celle-là avoir 3-4 approches. On a une approche nationale qui implique qu'il y ait un consensus au niveau national pour affronter ces dangers-là qui nous guettent tous.
Merci, merci Abdourahman Dia. Finalement, ce serait quoi la valeur des conclusions qui seront ici, n'est-ce pas, du travail de cette mission d'évaluation de l'action de la force de l'EAC sur le terrain, lorsque de l'autorité publique, on sait que cette force de l'EAC n'a pas vocation à utiliser la force, n'a pas vocation à se battre pour, n'est-ce pas, contraindre les M23 à pouvoir respecter ses engagements.
Oui, je pense que la question peut-être qu'il faut se poser, est-ce que la RDC, notamment l'Est de la RDC, a besoin d'une force d'interposition ou d'une force combattante? Parce que Nous avons déjà la MONUSCO qui est là-bas, qui, si on doit avoir une nouvelle force, est-ce qu'elle doit juste constituer une force d'interposition? Je pense que ce que je comprends, la majorité des Congolais ne veulent pas d'une force qui vient juste pour faire respecter des accords, soit vous venez combattre avec les frères congolais, ou bon, en tout cas la majorité des opinions que je vois ne semblent pas être pour qu'on ajoute des militaires qui viennent d'ailleurs juste pour s'interposer. Donc je pense que c'est une question légitime que les gens posent. Maintenant, moi, l'approche que j'ai quand on parle de coopération sécuritaire, ça ne signifie pas toujours avoir des troupes sur place, surtout si ces troupes-là ne combattent pas. On parlait en début d'émission de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays grand fabricant d'armes. Pourquoi pas voir de ce côté en termes d'équipement plutôt que de penser tout le temps aux Occidentaux, aux Russes ou aux Turcs? Je pense qu'il y a une forme de coopération où, qui est là-bas disponible, à mon avis, qui peut-être pourrait être moins cher pour la RDC, pour que la RDC puisse s'équiper en armement, en termes de formation. Et maintenant, pour moi, si les pays de la région, notamment de l'EAC et de la SADC, veulent aider la RDC, c'est de l'appuyer diplomatiquement. Mais je pense que sur le plan militaire, il appartient effectivement aux Congolais d'être au front, être devant en tout cas, avant d'avoir une autre force. Ça, c'est, je pense que, et c'est un peu l'opinion même d'ailleurs qui se dégage, si je comprends bien, de, auprès des Congolais.
Merci. On prend une petite pause avec Plus rien ne m'étonne de Tiken Jafakoli et on revient juste après.
Partage le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Partage le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Tu me laisses faire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Plus rien ne m'étonne de Tiken Jafakoli, cet artiste musicien ivoirien qu'on ne présente plus. On revient à l'actualité de la semaine et je rappelle que nous avons dans cette émission José Naoué, il est journaliste et éditeur du journal Le Forum des As, c'est paraissant à Kinshasa. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile, coordonnatrice de l'ASBEL et collectif Simama Congo. Enfin, point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique, présentateur de l'émission Washington Forum. Après Martin Fayulu, Delice Sanga, Matata Ponyo et les partis ensemble pour la République de Moïse Katumbi vendredi dernier, le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu lundi 3 juillet Adolphe Mouzito, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, le président du parti politique Nouvel Élan. Au cours de cette rencontre, l'ancien premier ministre a soulevé un certain nombre de préoccupations. C'est notamment la composition de la CENI, le financement des élections et la non-organisation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans trois territoires du pays, à savoir Rutshuru, Masisi au nord Kivu et Kwamutu dans le Maïndombe. Trois leaders de l'opposition, Moïse Katumbi, Augustin Matata et Denis Sesanga, et pendant ce temps, appellent à un dialogue entre parties prenantes pour harmoniser les aspects techniques du processus électoral en cours. Ils ont lancé cet appel dans un mémorandum dont une copie est parvenue ce mercredi 5 juillet à Radio Okapi. Ces candidats à la présidentielle à venir estiment nécessaire d'établir un vrai cadre de concertation entre parties prenantes pour un monitoring régulier du processus électoral en faisant la lumière sur les matériels sensibles trouvés entre les mains des personnes non autorisées. Moïse Katumbi, Augustin Matata et Delice Sanga veulent également savoir le nombre total des machines livrées par Mirou System et leur déploiement dans les centres d'inscription avec en appui la cartographie de toutes les aires opérationnelles. Abdourahmane Dia, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Oui Guy, en fait j'ai choisi ce sujet parce que je m'intéresse un peu aux processus électoraux en Afrique et quand je vois un peu le débat en cours en RDC, je vois que pratiquement, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent un peu partout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en période préélectorale, il y a toujours ces tensions. Et il est important, je pense, qu'il y ait une certaine confiance de tous les acteurs dans le processus. Et c'est pourquoi j'ai trouvé que c'était intéressant cette rencontre que le président de la CENI a initiée avec les différents candidats de l'opposition qui ont des griefs contre, disons, ce processus. Et évidemment, en tant que journaliste aussi, je vois un peu tout le débat et je me dis, tout ce débat sur le report, est-ce que c'est fondé ou pas? Et je pense que tout dépendra aussi de ce qui va aboutir. Et je pense qu'il est important que tous les acteurs, y compris le pouvoir comme opposition, puissent avoir, et même la société civile bien entendu, puissent avoir confiance au processus en cours. Et je m'intéresse et je vois vraiment, à 6 mois, à 5 mois des élections, il y a toujours des tensions. Je vois un peu ce qui se passe au Sénégal par exemple, et même si c'est un pays qui a l'habitude d'organiser des élections, qui finalement se déroule bien, mais il y a tout le temps, ce n'est pas une première au Sénégal, il y a tout le temps des tensions préélectorales avec des morts et tout, et finalement à l'arrivée tout se passe bien. Et je pense qu'on peut éviter cela. Il ne faut pas tout le temps qu'on attende le dernier moment pour que les acteurs politiques se battent entre eux, ne trouvent pas d'accord, il faut s'y prendre un peu tôt et éviter les malentendus. Maintenant, la RDC est peut-être un cas un peu différent vu que c'est un vaste territoire et sur le plan logistique, ça peut poser beaucoup plus de problèmes et c'est pourquoi ce sujet-là m'a un peu intéressé.
Merci. José Naouej, on peut espérer à quoi à l'issue de ces concertations entre la CENI et l'opposition quand on sait que la méfiance entre ses partenaires demeure?
Oui, écoutez, chers confrères, je voudrais embrayer sur ce que disait notre confrère Abdourahmane, c'est que finalement, les élections en Afrique, on a le sentiment que les élections sont une fin en soi. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections ne sont qu'un instrument pour faire cours, un, de légitimation du pouvoir et de ses animateurs, deux, de respiration et non d'embolie démocratique. Alors, pour arriver à des élections apaisées, parce que c'est le terme qu'on utilise souvent, il faut que ces élections soient inclusives. Mais pour qu'elles soient inclusives, il faut qu'il y ait la confiance. La confiance ne vient pas quand on se regarde en chaîne de faïence. La confiance ne règne pas avec méfiance. On ne peut pas à la fois espérer créer de la confiance quand il n'y a que de la méfiance, quand on ne se parle même pas. Et donc, de ce point de vue, le fait simplement que les parties prenantes des oppositions prennent langue, enfin, avec le président de la CENI, est encouragé. Parce qu'on allait dans un processus où finalement, disons les choses telles qu'elles sont, et ça ne sert à rien de tourner autour du pot, où vous aviez le président, le bureau de la CENI, et en face, vous avez la majorité, ou disons le pouvoir qui est là, mais le pouvoir doit avoir un challenger. Il faut quand même qu'en face de ce candidat du pouvoir, de ce candidat à la présidentielle, et des candidats aux autres élections, qui est des correspondants en face, c'est ça les règles du jeu démocratique. Or, à l'allure où allaient les choses, ça veut dire qu'on allait avoir des élections où on devait choisir entre Guy et Maté. Alors, la réponse est vite connue. Et plus sérieusement, n'attendez pas une période post-électorale apaisée dans ces conditions-là, c'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas seulement que tel soit élu ou réélu, mais l'enjeu c'est la sécurité au sens noble du terme du pays. Si les élections sont mal faites, sont mal menées, sont mal organisées, la réponse on l'a. On a déjà eu ce genre de réponses dans le passé. Pourquoi avoir cette capacité, je dirais presque maladive, à reproduire les mêmes tares? Tout en sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça le sujet. Et vous avez fait allusion à la proposition du leader, de l'initiateur du Nouvel Élan, l'ancien Premier ministre Mouzito, mais sa préoccupation, elle est non seulement légitime, mais c'est une préoccupation frappée du bon sens. Vous ne pouvez pas prêcher l'unité nationale, la cohésion, et aller aux élections en ignorant, disons, en faisant l'impasse sur certains territoires, même un seul territoire, ça pose problème. Et il l'a dit très clairement que nous risquons, nous-mêmes Congolais, de consacrer par l'absurde cette balkanisation qu'on veut nous imposer. Premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de la répartition des sièges, mais les 500 sièges des députés, on les a calculés sur quelle base, sur quel ratio, parce que justement, il y a trois territoires, en l'occurrence, le Kwamout, Masisi et Rutshuru qui ne sont pas pris en compte, partie de Masisi. En tout cas, tout Rutshuru et Kwamout, ce n'est pas rien. Et donc, le Premier ministre Mouzito a raison de poser ces problèmes-là, et de la même manière que les trois autres leaders de l'opposition, à savoir Moïse Katumbi, Sesanga et Matata, quand ils en appellent à un cadre de concertation, mais c'est justement ce que nous disons. Il y a un proverbe argentin qui dit « on ne peut danser le tango qu'à deux ». Mais s'il n'y a pas ce cadre de concertation, si on ne peut même pas se parler, comment on va préparer techniquement ces élections-là? Il y a enfin la position de l'ancien chef de l'État qui est à la tête de sa famille politique, le FCC, Joseph Kabila, et qui est dans une logique qu'on peut entendre aussi. On peut entendre quand il estime que les institutions qui ont été mises sur pied pour piloter le processus ne l'ont pas été de manière consensuelle. Bref, c'est autant de questions qui nécessitent qu'avant ces élections-là, qui est quand même une concertation, on ne fait pas des élections pour faire des élections, mais on fait des élections pour résoudre le problème qui se pose. Mais il ne faut pas que le remède soit plus dangereux que le mal qu'il est censé soigner. On n'y va pas pour des élections pour les élections, parce qu'il y a une date, on fétichise autour de cette date. Non. Des élections pour résoudre quel problème? Et comment le résoudre? De sorte que si demain on proclame tel vainqueur, il y aura toujours des contestations, mais qu'il y en ait le moins possible. Mais pas de contestations évidentes. On voit manifestement que celui qui a été proclamé élu ne l'a pas été en réalité dans les urnes. Et là commence le problème. Et c'est là à tous les niveaux de scrutin.
Merci, merci Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza. Nous allons terminer cette émission avec vous. À la société civile, qu'est-ce que vous recommanderez à la CENI pour que nous puissions atterrir en douceur, pour que nous puissions avoir des bonnes élections? Madame Néné Moudekereza? Malheureusement, on a perdu Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza, qui ne répond plus au téléphone. Et merci à vous, Monsieur Abdouhaman Dia, à Monsieur José Naouej et Madame Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Alain Ngoy qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et des Deps Vita. À la présentation, Guy Maté, sous la supervision d'Alex Sommet, Martin Sauvijang et d'Étienne Rogéry. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Bajira et Amabala de Milia Bel dans Afriza de Rochero Taboulé, chanson sortie en 1985. Et on se retrouve le samedi prochain.